La plupart des gens pensent qu'aller dans un lieu de culte le dimanche et suivre certains rites sont des gestes contraignants, ce qui fait que le nombre de fidèles des églises traditionnelles est en forte diminution. Pourtant, ces actions que les gens trouvent si niaillant ne sont que de petits ravalements de façade qui exigent peu d'efforts comparés à une refonte complète de l'intérieur d'un bâtiment. C'est un peu ce que l'apôtre Pierre demande à ses lecteurs de faire dans leur vie, mais au niveau spirituel et moral, car la maison en question, c'est chacun d'eux. Il a commencé par donner une liste de 7 caractéristiques que tout croyant est non seulement censé posséder, mais qui doivent être présents en abondance afin que le disciple soit efficace dans son action et donc utile à son maître. Ces qualités prennent appui sur la foi en Jésus-Christ, qui est l'élément vital et la fondation de la vie chrétienne. Cette liste se compose de la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance pleine d'espérance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle et enfin l'amour. Je continue à lire dans le premier chapitre de la seconde épître de Pierre. « Celui à qui ces qualités font défaut est comme un aveugle. Il est myope, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. » Verset 9. C'est un avertissement sévère que Pierre adresse à des membres d'Église ou à des croyants qui se disent comme tels. Leur problème est qu'ils ne font pas de progrès dans la foi, ce dont ils ne sont pas conscients parce qu'ils sont aveugles au regard de leur condition spirituelle. Dans les Écritures, la cécité symbolise souvent l'ignorance ou l'incrédulité à l'égard de Dieu. Non seulement ces gens ne voient pas leur état présent, mais ils sont myopes, un mot qui n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. D'une part, ils sont indifférents à l'égard de leur condition spirituelle rétrograde, et d'autre part, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire qu'ils ne discernent que leurs intérêts immédiats et terrestres sans considérer leur bien-être éternel. Il est probable que d'une manière ou d'une autre, ils mènent une vie décousue étant séduits par l'immoralité ou l'attrait des richesses ou par les deux. En troisième lieu, Pierre leur reproche d'avoir oublié qu'un jour dans le passé, ils ont dit avoir placé leur foi en Jésus et ont été purifiés de leurs péchés. Le mot pour oublier était courant en grec, mais n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. Le mot pour purifier a donné catharsis, qui veut dire « nettoyage » en français. Pierre rappelle à ces gens qu'ils ont été purifiés de leurs péchés afin qu'ils se ressaisissent et s'amendent. Mais en attendant un changement spirituel et moral notable, l'apôtre se demande si ce sont de véritables croyants. Paul a eu les mêmes doutes au sujet de certains membres de l'église de Corinthe à qui il écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés ?» Voilà un questionnement plein de menaces, mais à prendre très au sérieux. Le croyant efficace et productif n'est ni spirituellement aveugle, ni myope. Tout au long de sa vie, il tente d'arranger ses valeurs et ses priorités selon le modèle des Écritures, et il œuvre en vue de l'éternité. Je continue le texte. C'est pourquoi, frères, redoublez d'efforts avec d'autant plus de zèle pour vous assurer en vous-même de votre vocation et de votre élection, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Verset 10. Redoublez d'efforts pour vous assurer. Le mot traduit par redoubler d'efforts est un impératif. Il a précédemment été traduit par faites tous vos efforts et exprime un sentiment d'urgence et d'empressement. Le mot pour assurer était couramment utilisé pour désigner un contrat d'hypothèque que les gens souscrivaient et pour lequel ils devaient montrer patte blanche en donnant leur maison ou d'autres biens en garantie de leur bonne foi. Pareillement, le croyant qui adopte une conduite conforme à l'enseignement des Écritures montre par là qu'il est purifié de ses péchés, qu'il appartient à Jésus-Christ et qu'il a été élu et prédestiné par Dieu avant la fondation du monde. Il prouve l'authenticité de son élection en manifestant les sept qualités que Pierre a énumérées précédemment. Il faut en effet garder à l'esprit que lorsque Dieu choisit quelqu'un pour le salut, il l'appelle en même temps à l'obéissance et à mener une vie sainte. Comme c'est Dieu qui choisit, l'élection est l'aspect objectif du salut, tandis que la vocation est son aspect subjectif. Cette dernière décrit l'homme qui répond à l'invitation de Dieu en acceptant Jésus comme son sauveur. La sécurité éternelle du croyant est objective et absolue car elle repose uniquement sur Dieu. Par contre, l'assurance du salut est un sentiment subjectif qui dépend en grande partie de mes comportements. Si je vis dans le mensonge, j'ai de bonnes raisons de me demander si je suis un véritable croyant. Même si Jésus a fait tout le nécessaire pour me sauver et me garder, je dois continuellement tenir mon corps en bride et m'efforcer de conformer ma vie à l'enseignement des Écritures. « Si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais, » dit Pierre. « Oui, à condition que ce soit une pratique permanente. Le croyant qui persévère en vue d'acquérir les sept vertus morales que l'apôtre a décrites ne tombera pas dans les griffes du péché, du doute, de la peur, du découragement ou d'autres maux encore, ce qui lui permettra d'avoir une vie spirituelle abondante et productive pendant tout son séjour sur terre. Le mot pour « tomberer » signifie commettre une erreur ou subir un revers. Franchement, j'aurais préféré que Pierre ne fasse pas une telle affirmation parce qu'elle me gêne pas mal. En effet, devant Dieu, je ne brille pas toujours comme un sous-neuf. Il m'arrive justement de dévier de la course, de manquer une super occasion de me taire, par exemple, et puis je n'ai pas envie de vous en dire davantage. Ce qui me console est que Pierre ne dit pas « soyez arrivés au but », mais avec zèle, redoublez d'efforts, efforcez-vous, appliquez-vous. Alors j'essaye. Je continue le texte. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Verset 11. L'expression grandiose « royaume éternel » est unique dans le Nouveau Testament, bien qu'il en existe d'autres qui lui sont proches. Pierre utilise le futur, ce qui renvoie au nouveau ciel et à la nouvelle terre que mentionne l'apôtre un peu plus loin. Il n'a pas à l'esprit l'enlèvement de l'Église, parce que d'une part, il n'avait pas reçu cette révélation, et d'autre part, il savait qu'il finirait martyr. En effet, il y a de cela bien des années, quelque part sur les bords du lac de Tibériade, Jésus lui avait dit « Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. » Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. L'expression « Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » que Pierre emploie n'apparaît que quatre fois dans les Écritures et elles se trouvent toutes dans cet épître. L'apôtre insiste sur la seigneurie du Christ parce que les faux docteurs la dénie. L'ultime récompense d'une vie de disciple qui marche avec son maître en honorant Dieu est d'être reçu personnellement par le Sauveur dans son royaume et de s'entendre dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Quand on y réfléchit tant soit peu, rien d'autre en ce monde ne peut se comparer à un tel accueil les bras ouverts par le Seigneur de gloire. Et tout compte fait, mourir martyr pour Jésus est un détail insignifiant si à l'instant de votre départ, vous êtes soudainement en face de lui qui vous tend chaleureusement la main. C'est probablement ce que le diacre Étienne a expérimenté, parce qu'au moment où il a été mis à mort, il a dit « je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Notez bien que le Seigneur, qui est toujours décrit assis à la droite de la majesté divine, s'est levé pour accueillir Étienne en personne. Quel honneur ! L'apôtre Paul aussi a connu cette même félicité. Dans sa dernière lettre, il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. » Littéralement, Pierre dit « Ainsi vous sera richement accordé l'entrée dans le royaume. » On a déjà rencontré le mot pour « accordé » qui a donné chorégraphie en français et qui contient l'idée d'abondance et de générosité. Les croyants qui cherchent sincèrement à plaire au Seigneur mourront, comme tout le monde, seulement au moment où ils rendront leur dernier souffle, leur dernier soupir. Ils verront s'ouvrir toutes grandes les portes du royaume de Dieu dans lequel ils entreront sur un tapis rouge en quelque sorte. C'est une autre manière pour Jésus d'exprimer sa bonté à l'égard de ses disciples fidèles. Je continue le texte. « Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. » Verset 12. La vérité désigne l'ensemble de la foi évangélique telle que les apôtres l'ont fixée, et Pierre conjugue le verbe « fermement attaché » de manière à communiquer qu'il reconnaît en ses croyants des disciples fidèles qui persévèrent dans leur foi. En d'autres mots, ne voulant pas que ses destinataires interprètent mal ses intentions, Pierre leur dit qu'il ne doute pas qu'ils ont été proprement instruits et sont fermement établis dans la parole de Dieu. Cependant, sachant que ses jours sont comptés, il tient quand même à ce qu'ils gardent à l'esprit tout ce qu'il leur écrit, ce qu'il mentionne 4 fois dans cet épître. Le problème de beaucoup de croyants n'est pas qu'ils ne connaissent pas l'enseignement des Écritures, mais plutôt qu'ils ont une très mauvaise mémoire, et j'en fais partie. Nous oublions trop facilement comment nous devrions nous conduire, ou alors nous faisons la sourde oreille quand le Saint-Esprit nous interpelle. Connaissant nos mauvais penchants et l'intérêt de la répétition, l'Éternel avait dit aux Hébreux que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » Fin de citation. En fait, les textes sacrés comptent d'innombrables versets qui, d'une manière ou d'une autre, exhortent le lecteur à ne pas oublier les bienfaits de Dieu ou à s'en souvenir. L'apôtre Paul aussi n'avait pas peur de se répéter. Il écrit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Les évangiles racontent la même histoire de plusieurs façons différentes. Jésus répétait son message dans des sermons, des paraboles et des leçons d'objets partout où il allait, exposant encore et toujours ses disciples à la vérité. C'est par cette méthode qu'il les a préparés à la tâche qui les attendait. C'est par la répétition que la vérité peut s'ancrer dans l'esprit et le cœur des croyants. L'intérêt d'un enseignement biblique systématique qui couvre la totalité des 66 livres des textes sacrés et qu'il aborde et répète maintes fois tout ce que Dieu veut communiquer à l'homme. Je continue le texte. « Mais j'estime juste de continuer à vous tenir bien éveillés par mes rappels tant que je serai encore dans ce monde. » verset 13. Littéralement, Pierre dit « Aussi longtemps que je suis dans cette tente ». Le corps mortel que vous et moi habitons est comparé à un abri temporaire et précaire dont se servent les pèlerins ou les nomades. Pierre est très conscient qu'il habite une demeure provisoire et que bientôt Dieu repliera sa tente afin de libérer son âme éternelle pour qu'elle entre dans les cieux. L'apôtre Paul écrit « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. » Il y a tout à parier que quand Pierre a écrit qu'il cherchait à tenir bien éveillés ses lecteurs, il s'est rappelé que lui-même avait été incapable de rester éveillé dans le jardin de Gethsémané, la nuit qui précéda la crucifixion du Seigneur. L'apôtre estime que sa démarche est juste, c'est-à-dire qu'il est de son devoir de pasteur de s'assurer du bien-être spirituel des brebis dont il a la charge. Je continue le texte. « Car je sais que mon départ de ce corps mortel sera brusque, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que, même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. » Versets 14 et 15. Ce passage montre bien que cette épître est comme le chant du cygne pour l'apôtre Pierre, son testament et ses dernières paroles. Il sait que son départ sera brusque, un mot qui signifie imminent ou rapide. Entre sa résurrection et son ascension, Jésus avait clairement indiqué à l'apôtre que sa mort serait soudaine et violente. Pierre parle de sa mort comme un départ. C'est le mot grec qui a donné exode en français et qui veut dire aller hors de, quitter un lieu pour se rendre dans un autre. Pour l'apôtre Pierre, quitter son corps signifiait entrer dans le royaume des cieux. C'est aussi ce que Paul enseigne quand il dit « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur ». Quand Dieu a créé Adam, il l'a façonné à partir de la poussière. Et quand quelqu'un décède, son corps disparaît dans la terre. Cependant, le Nouveau Testament utilise le terme « dormir » pour la mort des croyants parce que Dieu les ressuscitera et leur donnera un corps de gloire qu'ils posséderont pour l'éternité. Comme l'âme est immortelle, la résurrection concerne uniquement le corps. Il n'existe pas de stade ou de palier intermédiaire entre la mort d'une personne et son état éternel. Dès que quelqu'un entre dans l'éternité, il est soit dans la présence de Dieu, soit dans l'antichambre du jugement. J'aimerais bien pouvoir dire qu'après cette vie, les êtres humains auront une seconde chance d'accepter Jésus comme leur sauveur, mais les Écritures me l'interdisent. Pierre dit œuvrer d'arrache-pied afin de laisser derrière lui un testament constitué de ces deux épîtres qui servira à rappeler aux croyants la grandeur de leur salut ainsi qu'à les préserver des mensonges que répandent et répandront les faussaires spirituels. Lorsque quelqu'un se trouve sur son lit de mort, il est bien rare qu'il mente, même si c'était un traître ou le pire des imposteurs. Et même si de toute sa vie il n'a jamais rien dit de significatif, au moment de sa mort, il n'est pas rare qu'il donne à ceux qui l'entourent une ou des informations de première importance. Dieu prête beaucoup d'attention aux dernières paroles de ses fidèles serviteurs, ce qui fait qu'on les trouve dans les Écritures. Cette épître, la deuxième de Paul à Timothée, et le discours de Jésus dans la chambre haute sont leurs discours d'adieu et leur dernière recommandation testamentaire. Dans l'Ancien Testament aussi, nous avons de longues déclarations d'hommes de Dieu. À la fin de sa vie, Jacob a réuni ses 12 fils autour de son lit de mort et a prophétisé sur chacun d'eux. Quand la seconde génération des Hébreux était sur le point d'entrer en terre promise, Moïse, qui savait qu'il allait mourir, a rassemblé les 12 tribus d'Israël, en réalité 13, afin de les bénir un peu comme l'avait fait Jacob. Josué prit la relève de Moïse et dirigea la conquête de la terre promise. Devenu vieux et juste avant de mourir, il rassembla lui aussi les tribus d'Israël et leur fit ses dernières recommandations. À la fin de sa vie, David convoqua son fils Absalom, son successeur, et lui dit « Je m'en vais par le chemin de toute la terre » avant de l'exhorter à obéir à l'Éternel. « Je ne vous connais peut-être pas et je ne sais pas où vous êtes, mais je peux vous dire sur quelle route vous voyagez. Vous allez par le chemin de toute la terre, c'est-à-dire vers le cimetière. Ce n'est pas très réjouissant, ni pour vous, ni pour moi, mais nous sommes tous des morts vivants destinés à devenir de la poussière. Seulement, si vous avez placé votre espérance en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle qui vous attend. »